Changer l'orientation de ta caméra, Simon? Tu veux mettre l'emphase sur l'étagère l'eau commune?
Ah oui.
Ouais, c'est ça. On est-tu live, là, pensez-vous, qu'on est live?
Yes,
ben
c'est
non.
Parti.
C'est parti?
Eh oui.
C'est parti, on est live.
Ben oui, toi, tabourette de tabourette.
Bon. Fait que c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux. Plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. On a du reverb, je sais pas, hein? En pleine intro. Parfait, donc bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Ludique. Aujourd'hui, saison 13, épisode 3. Bienvenue, bonjour messieurs.
Bonjour Simon.
Alors je suis en compagnie, excusez, là, je me suis fait avoir,
ah oui.
Antoine, il vient.
Lâche le chat.
Il vient de nous. C'est mieux
il
que de l'écho.
Il me dérange.
Parfait. Alors, je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Steve, Vincent et bien entendu, nul autre que PPP7, Pierre Poisson Marquis, la légende. Et cette fois-ci, oui, sa
Hello.
Caméra fonctionne.
Hello, les goglus.
Hello. Donc, est-ce qu'on nous entend bien? On est sur un nouveau système de streaming. Je sais pas trop si on nous entend bien. On voit Antoine qui arrête pas de répéter « le son ne fonctionne pas ». Donc, on n'est pas certain, mais on va se lancer. Laissez-nous savoir dans les commentaires s'il y a des problèmes ou s'il y a quelque chose comme ça qui cause problématique. Parfait. Alors, ça a l'air d'être juste Antoine qui veut nous troller. Hein, c'est ça, exactement. Le gars, il dit « Moi, je veux pas participer, mais je vais vous faire chier sur le YouTube en même temps pendant que vous faites le live aujourd'hui. » Donc, c'est ça la vie. Alors, on se lance. Donc, on va parler d'élégance aujourd'hui, mais avant tout, on va faire un petit tour de table, peut-être pour parler d'actualité ludique en tout genre. Alors, Steve, si tu veux te lancer, on t'écoute.
Oui, on va éviter, on a vu le chat, là, ça l'intéresse pas, les fameux As d'or. On va passer quand même à autre chose, là. Je vais parler d'un petit jeu que j'ai reçu dernièrement. Là. Je sais que vous allez parler d'autres choses que des jeux dans la vie, mais je vais parler du jeu Sankore qui est dernièrement sorti par Osprey Game, avec une thématique, c'est le deuxième jeu d'une trilogie, il y avait Merv en premier, là, on passe à Sankore, et The Pride of Mansa Musa, ça m'a juste... intéressé de qui sortent des thématiques assez spéciales. Savez-vous c'est qui? Le fameux Mansa Musa.
Non.
Non, il y a Chio Sandboard déjà. Mansa Musa, c'est peut-être considéré comme le joueur, en fait, la personne la plus riche ayant vécu. Donc, à son époque, la quantité de l'argent qu'il avait, on va laisser faire ce que ça m'amuse Vincent à faire, là. Donc, c'était la personne la plus riche de son époque, mais il était tellement riche qu'aujourd'hui, il serait possiblement la personne la plus riche au monde. Donc, c'est un jeu qui va reprendre la thématique, qui va juste faire vivre la section de nord de l'Afrique où est-ce qu'il va construire, on va chacun construire nos écoles et on va faire vivre une université en plus grandissante pour du prestige. Il y a un aspect de point assez spécial où est-ce qu'on va placer des livres dans une espèce de librairie et en fonction de qu'est-ce qui est majoritaire dans certaines sections, on va faire des points, donc on pourra mettre des livres pour faire chier Vincent, question que toute sa game fasse pas de points. Un jeu qui est loin d'être élégant à la première lecture des règles, on va en reparler plus tard pour ça. Sinon, toi Vincent.
Oui, Vincent, moi. Non, ben, attends un peu, je pensais que t'es... Ben, mais OK, on peut pas rebondir ce que tu dis, OK, c'est
ah,
bon.
Ah, ben, je sais pas, t'avais-tu quelque chose à rebondir là-dessus?
Pas vraiment.
Moi, je fais une minute, puis mon show est fait.
OK, c'est bon.
Je vais une gag. Ben,
ouais, on va se retenir.
Fait que, ben écoute, de mon côté, moi, j'avais envie de vous partager un peu un éditeur que j'ai découvert récemment. Là, Pierre veut que je donne là, du crédit. Fait que regarde, Pierre, prends-en du crédit, tiens. Hein, remettons à César ce qui est à César, puis à Pete ce qui est à Pete. Hein. Bravo, Pierre. Bravo.
Ah, il a pas digéré hein, le fait de devoir admettre devant tout le monde que sans Pierre, il aurait jamais été quelque chose. Hein. C'est quand même bien. Hein.
Je suis plus ou moins d'accord. C'est juste que Pierre a accéléré la montée fulgurante de ma
Ça pourrait être un sujet d'épisode. Qu'est-ce que serait Vincent Beaulac sans Pierre Poisson Marquis? Je pense qu'il y a quelque chose à faire là.
J'aurais probablement 1200 jeux que j'ai pris parce que j'étais trop excité. Mais bref. Adlung, je suis là. C'est un éditeur que j'ai découvert récemment, en fait. Ben, un petit peu quand même. Mais ça fait quelques jeux que je joue deux autres. C'est des toutes petites boîtes, en fait. Puis j'aime énormément le design très minimaliste. C'est vraiment des paquets de cartes. Là, on parle de peut-être une cinquantaine de cartes. Énormément de gameplay dans ces petites boîtes-là. Ils ont des jeux de style économique. Ils ont des jeux de style gestion de ressources, des jeux de gestion de risque, ils ont même des jeux des jeux cachés, pas cachés, des jeux de rôle, où est-ce que bon, on va avoir une identité cachée et tout ça. Puis des jeux de négociation. Et c'est vraiment étonnant de voir à quel point qu'on est capable de se lancer dans un univers à partir d'un si petit paquet. Vraiment, vraiment du fun. Et celui-là, en fait, c'est celui que j'ai joué cette semaine qui s'appelle The Fougueur et non pas The Fucker. OK, Antoine, c'est The Fougueur. L'auteur de Carcassonne. Puis c'est meilleur que Carcassonne.
Bien, voyons.
Ben oui. Fait que Pierre, Pierre, tu peux parler maintenant. Tu vas-tu parler du super gang que j'ai eu à 40$?
Non, je vais parler plutôt de ton Monsieur Fugger que tu évoques dans ton dit Fugger, qui est en fait l'équivalent de Mansa Musa, comme étant l'homme le plus riche de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est assez discutable. Mansa Musa, c'est un homme qui a régné sur le Mali et qui faisait envie de beaucoup de monarques de la Renaissance à la période où il a vécu. À un point tel qu'on envoyait des émissaires au Mali et la ville de Timbuktu en faisait partie. D'ailleurs, ça a donné naissance à un jeu, la ville de Timbuktu. Et on estime la fortune de Mansa Musa aujourd'hui à quelque chose comme 400 milliards de dollars, s'il vivait encore aujourd'hui. Le problème, par contre, c'est que Mansa Musa, on a moins de documentation sur lui que Jacob Fugger, qui était un clerc célibataire et qui a aussi amassé tellement de fortune, équivalent de 400 milliards aussi, qu'il faisait des prêts à des rois et même au pape de l'époque. Pour financer leur projet. Donc, quand vous êtes rendu à financer des monarques comme ça, on peut dire que vous êtes l'homme le plus riche au monde. Et de l'histoire aussi. Oui. Et c'est pour ça que Die Fugger s'appelle Die Fugger. C'est un jeu qui se déroule à cette époque-là sur l'histoire de M. Fugger, mais surtout de la spéculation qui entoure les richesses qu'on pouvait faire à cette époque-là. Mais mon actualité ludique, évidemment, c'est pas ça. Mon actualité ludique, c'est plutôt le fait que il faut falloir en parler. Personne n'en parle. Des as d'or qui ont été lancés.
Ah, tu gosses!
Donc,
ça mérite ça, là. Tain.
Mais où est Rémi Rémi?
Ils n'ont pas mis Rémi Rémi, ils n'ont pas mis Earth. Donc, il n'y a aucun jeu québécois à l'honneur qui sont.
Sky Team, Earth.
Skyteam n'est pas là non plus. Même que, non seulement ça, mais il y a des jeux asiatiques qui sont mis à l'honneur.
Trio, je pense.
Trio en est un. Je pense qu'il y a aussi dans les jeux pour initiés, il y a un jeu solo qui est chinois, il me semble.
Et là, Something Shiny?
Oui.
Je sais pas que c'est chinois.
Je pense bien que c'est chinois, ça. Mais bref, il y a ça. Et il y a même, évidemment, Cat in the Box, qui est un jeu japonais.
Ouais.
Mais c'est quand même assez fascinant de voir que les jeux asiatiques prennent de plus en plus d'importance dans la culture ludique. On le voit vraiment avec Lost Ark cette année. Et on avait commencé aussi à le voir avec le Spiel des CRS, avec le jeu Scout, il n'y a pas si longtemps. Donc, simplement pour vous dire, en fait, je vous parle des As d'or pour faire un détour, pour vous parler surtout de la culture asiatique dans les jeux qui commence vraiment à prendre le dessus et qui devient vraiment quelque chose comme le nouvel horizon exploré, je pense, dans les jeux de société.
Ouais, ben c'est une belle réflexion qui pourrait faire, si on veut, un sujet plus global. D'ailleurs, Antoine avait déjà commencé à en parler un peu dans sa rétrospective 2023. C'est assurément quelque chose que nous, personnellement, on surveille, on regarde, on aime découvrir. Et c'est un marché complètement différent aussi, hein. Ça, on pourrait en parler longtemps, principalement, mettons, du marché japonais, là, qui complètement différent de ce qu'on connaît comme marché en termes de jeux de société. Fait que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ben là, vu que le temps file, moi je ferai pas mon actualité ludique. De toute façon,
elle fitait
pas trop bien. Fait qu'on va garder ça pour une fois. Après Pierre, là, tu sais, qui nous sort toute sa culture et son éloquence, tu sais, ça devient un peu difficile de se lancer là-dessus. Fait qu'on va plutôt y aller directement dans le vif du sujet, l'élégance. Et là, je raconte rapidement mise en contexte très rapide. Je suis dans un party de l'industrie du jeu vidéo, OK? Et il y a plusieurs designers de jeux qui sont là, des designers de jeux vidéo. On parle, et là, moi, on discute. Et là, à un moment donné, il y en a un qui m'interrompt, qui m'interpelle et qui dit, « Là, ça fait plusieurs fois que tu utilises le terme « élégant ». Qu'est-ce que tu veux dire par un jeu élégant? » Et de là commence une réflexion. Ça m'étonnait quand même de me faire poser cette question par un designer de jeu. Là, ça sera peut-être un autre sujet un jour. Là. Donc, on va tenter ce soir, dans le peu de temps qu'on a, de parler de l'élégance dans un jeu par les exemples, par des références, par aussi des définitions qu'on peut faire. Je vais commencer rapidement avec un peu une espèce de théorie que j'ai là-dessus. Après ça, je vais vous laisser réagir, bien entendu. Dans le jeu, bon, on va appeler, il y a plusieurs dimensions et tout ça. On va dire il y a les règles. Okay? Il y a les règles. Et au niveau du joueur, il y a deux éléments qu'on va pouvoir déterminer comme étant le modèle mental et le budget mental. Okay? Donc, le modèle mental, c'est le modèle mental qu'un joueur se fait d'un jeu. Donc, quelle est sa compréhension du jeu? À quel point il est capable de comprendre le jeu, de comprendre les différents systèmes impliqués, les différentes mécaniques? Donc, la première fois que tu joues à un jeu, ton modèle mental est très faible, très peu élaboré, mais il va s'échelonner et on va glisser rapidement sur l'élégance. Mais pour moi, un jeu élégant doit avoir... Ça doit être facile de créer un modèle mental autour de ce jeu. Est-ce qu'on comprend tout le jeu, toutes les stratégies, tout ça? Non. Mais on est capable de cerner, de se faire une idée du jeu en tant que tel assez rapidement. Le deuxième point, c'est le budget mental. Le budget mental, c'est, on pourrait dire, l'espèce de processeur, de processing que ça prend à ton cerveau pour être capable d'opérer le jeu, de jouer le jeu. Donc, la charge mentale, le budget mental pour jouer à ce jeu. Est-ce qu'il y a 450 pages de règles, des exceptions, plein d'affaires, plein de trucs, des extensions qui sont rajoutées, plein de choses à surveiller, plein d'actions à pas oublier? Ou c'est un jeu, au contraire, élégant, dans lequel il y a les manipulations sont logiques? Et bien entendu, ces deux espèces de sphères-là, le modèle mental et le budget mental, vont se recouper dans ce qu'on va appeler un design qui est cohérent. Est-ce que le design est cohérent? Est-ce que tout est attaché ensemble? Est-ce que les systèmes se parlent entre eux? Est-ce que quand je fais telle chose, je vois telle icône, je fais telle action, est-ce que si je le fais plus tard ou à un autre moment dans le jeu, ce sera le même mécanisme qui va régir ça derrière? Si on revient juste à un niveau plus haut, peu de règles, beaucoup de possibilités. Okay? Donc, et là, j'aime pas la phrase « facile à apprendre et une éternité à maîtriser » là, parce que c'est un peu convenu et tout ça. Mais au final, ça reste que dans l'élégance, il y a quelque chose de... Ça veut pas dire qu'il y a peu de règles, mais ça veut dire que si je rajoute des règles, elles viennent s'appuyer sur ce que j'ai déjà appris. Et elles viennent pas créer des exceptions dans ce que j'ai déjà appris, mais elles viennent s'appuyer sur ce que j'ai déjà appris.
Question pour toi, en fait, est-ce qu'à ce moment-là, mettons, on parle d'un jeu avec qui a une corrélation vraiment, vraiment proche avec son thème, si on ajoute des règles puis que la personne peut comprendre, en fait, par le biais du thème, est-ce que pour toi, ça peut être élégant, même si, puis tu sais, j'ai un jeu en tant que tel, Infamous Traffic, où est-ce que le thème est tellement, tellement pointu, mais quand tu connais bien le thème après ça, bon, ben, il y a quand même une certaine forme de logique derrière qu'est-ce qui se passe, mais est-ce que pour toi, ce genre de jeu-là est élégant une fois que tu connais le thème ou non?
Je connais pas ce jeu, mais c'est vrai que élégant ne rime pas toujours avec peu de règles. J'ai des jeux en tête, puis tu sais, je vais penser à un jeu vidéo, mettons, juste pour aller de ce côté-là. Mais tu sais, mettons un jeu vidéo comme League of Legends, ok? C'est extrêmement complexe, il y a tellement de personnages, il y a tellement de trucs, c'est difficile d'approche, mais ce jeu, quand même, transpire une forme d'élégance où, tu sais, il y a des systèmes qui se parlent entre eux, et oui, plus t'approches le jeu, plus tu peux aller profond et pas nécessairement plus large. Donc, tu sais, je dirais, oui, c'est possible. Dans ce cas-là, je pense aussi à des jeux comme SimCity, où, tu sais, c'est très complexe, mais au final, il y a une logique qui est tellement forte dans le fait qu'il faut que tu électrifies tes maisons, tu sais, qu'il y a comme, il y a quelque chose là. Sinon, en termes d'élégance pure, on pense au Go ou à Ricochet Robot. Tu sais, quand moi, vous me dites élégance, le Ricochet Robot, pour moi, c'est l'un des jeux les plus élégants. Parce que prend 10 secondes à expliquer et après ça toutes les situations qui peuvent émerger de ce jeu viennent de la profondeur des systèmes et de l'esprit des gens qui jouent et pas nécessairement des artifices qui ont été rajoutés autour.
En fait c'est drôle parce que je suis sur il y a un groupe Discord sur lequel je suis puis on parle beaucoup des OG, c'est-à-dire les Old German Games qui veulent s'attribuer ce genre de ce que tu parles là, justement, très peu de règles puis beaucoup de possibilités. Je pense qu'il y a une forme, en fait, ces possibilités-là vont provenir aussi principalement de l'interaction entre les joueurs. Plus il y a de l'interaction, plus il y a des manières de pouvoir interagir avec les autres joueurs, plus il va y avoir des possibilités qui sont très diversifiées, là.
Ouais, ben ça me fait penser au jeu de Chinatown, hein, qui est un jeu bon que je sais que certaines personnes apprécient moins, là, mais qui transpire l'élégance, en fait, là, et que justement, comme tu dis, la profondeur de ce jeu vient de l'interaction entre les joueurs. C'est de là qu'émerge le plaisir de ce système-là. Je passerai peut-être la parole à Pierre, juste pour l'entendre réagir là-dessus.
C'est cocasse que tu aies nommé Ricochet Robot comme un modèle pour toi d'élégance, parce que c'est pas mal généralement à l'auteur de jeu-là qu'on fait référence lorsqu'on veut retracer les origines de l'élégance dans les jeux de société. Quoique on n'a jamais vraiment été si redevable. Il n'y a jamais vraiment personne qui l'a mis en valeur, l'auteur de Ricochet Robot, sur ce niveau-là, Monsieur Alex Randolph. On a mis plutôt en valeur son héritier spirituel, un de ses fans absolus. Il est devenu l'auteur de jeux de société le plus récompensé de l'histoire, qui s'appelle Wolfgang Kramer. Et c'est souvent à lui qu'on attribue le début de la mode de l'élégance dans les jeux de société. C'est lui, à vrai dire, qui a imposé ça comme démarche à suivre pour faire des jeux euro. Et ça a commencé avec son jeu en 86 qui s'appelle Heimlich Unko. C'est traduit ensuite par Top Secret Spies.
C'est quand même difficile de dire que ce jeu-là est élégant, par contre, là, mais... Quand j'ai vu ma feuille de notes après avoir joué, je pouvais pas me dire que c'était élégant, mais je comprends.
Et pourtant, c'est considéré comme un modèle d'élégance parce que ça a commencé vraiment quelque chose comme une tendance à laquelle on associait Kramer. On va associer par exemple Stephen Feld et Salade de Point. Lorsqu'on veut associer Kramer à quelque chose qui est typique dans ses jeux, on dit souvent que c'est un auteur élégant parce qu'il sait comment faire des systèmes assez complexe dans ces jeux qui donnent beaucoup, beaucoup de possibilités. Et pourtant, ça part toujours de la simplicité absolue dans la façon d'atteindre ces possibilités-là.
Mais tu parles de système, puis je pense que c'est un mot important à retenir là, qu'on voit pas. Vincent, je vais te laisser y aller. Je voulais juste dire ça parce que je pense que c'est un mot-clé. Puis dans les jeux de table des dernières années, c'est pas nécessairement quelque chose qui transpire là, dans les jeux populaires qui sortent. Là.
Ben, je pense que, en fait, ce que tu parles là du système, c'est là où est-ce qu'il y a peut-être une... pour moi, il y a vraiment, en fait, une nuance à apporter. Où est-ce qu'il y a comme une tendance aux jeux modernes où est-ce que le but, c'est vraiment une optimisation? Il y a un but, c'est de faire le plus de points possible et je vais avoir un choix entre A et B. celui qui me rapporte le plus de points sera celui que je vais prédominer. Par contre, quand tu regardes des jeux avec un système de jeu en tant que tel, où est-ce que les joueurs vont être en interaction, vont devoir en fait réagir aux autres joueurs, le choix ne devient pas aussi évident parce que ton choix, qui va peut-être t'apporter plus de points, peut t'amener aussi sur une pente descendante ou une pente glissante par rapport aux autres joueurs qui, eux, vont commencer un peu à te voir comme étant une menace. Donc, il y a tout le temps, en fait, ce ballon-là à avoir dans les jeux qui offrent un système. Puis l'exemple que j'ai, là, j'ai joué récemment à Kaivai, un jeu pas trouvable, là, bref, mais j'ai réussi à me trouver une copie. Yay! Kaivai, c'est le premier jeu, en fait, d'un des auteurs de Terra Mystica. En fait, c'est 6 pages de règles. J'ai expliqué le jeu à tout le monde et on était relativement... Ça semblait être clair, ça semblait être fluide. Et là, quand on a commencé à jouer, là, soudainement, on perd totalement un peu la notion. Tu parlais tantôt du... pas le budget, en fait, mental, mais l'autre
le modèle élément, mental.
Pas le modèle, mais l'autre après ça.
Le budget mental.
Puis, tu avais aussi... ce que les joueurs étaient capables de... Tu avais le troisième élément que tu parlais. Bref, c'était vraiment, vraiment difficile de voir qu'est-ce qui était le plus optimal à quel moment. Puis je pense que ça, c'est peut-être aussi une autre couche à ajouter dans l'élégance. Où est-ce qu'on a un système, c'est clair, c'est précis, c'est clair, puis on connaît nos actions. Mais une fois qu'on commence à explorer, bien là, on dirait que il y a vraiment, vraiment une espèce de brouillard, d'opacité qui se crée. Puis c'est là où est-ce que je me demande, en fait, est-ce que c'est un jeu qui est élégant ou c'est un système qui est vraiment, vraiment, qui se retrouve, en fait, dans une... qui se retrouve, en fait, entre l'élégance puis... un côté dense, opaque. Puis je trouve que justement, tu sais, tu parlais, mettons, de Ricochet Robot avec. C'est clair notre objectif, notre but. Puis pourtant, ben oui, ça va causer plusieurs situations. On parlait tantôt de Hamlish & Co., mais moi, j'avais Slurt en tête. Slurt, c'est simple. Puis après ça, c'est un gros casse-tête. Mais le but est clair. Comment y arriver? Puis les actions qu'on va faire, c'est clair. Mais quand je regarde un jeu comme Kaivai ou juste le Venertz, tiens, je l'ai dit bien prononcé, Pierre, oui, parfait, le Venertz, ben là, à ce moment-là, on se retrouve devant cette opacité-là, cette densité-là à cause du système de jeu. Donc là, je me demande, en fait, justement, où est-ce qu'elle se trouve, l'élégance? Est-ce que l'élégance se trouve, justement, dans le jeu ou est-ce que le but est clair puis on arrive, on optimise? Ou, justement, le système de jeu crée cette opacité-là, pourtant avec 3-4 pages de règles.
Tant que tu n'as pas à te référer dans les règles, déjà en partant, moi, je qualifierais ça d'élégant. Tu sais, comme déjà en partant, là, si... un jeu, ça peut être plein de choses. Mettons qu'on revient à des théories plus fondamentales du jeu, comme le cercle magique, là, tu sais, dans lequel tu te retrouves quand tu es en train de jouer à un jeu, là. Si tu dois t'extraire de ce cercle pour aller vérifier une règle, pour aller sur un forum, pour voir si tu fais la bonne chose et tout ça, t'sais, là, tu perds de l'élégance. Après, un jeu peut être complexe. Il y a aussi une différence à faire entre compliqué et complexe. Là, t'sais, compliqué étant comme une espèce de linéarité de choses qui se succèdent et qui n'ont pas nécessairement de logique pure entre elles. Et la complexité était vraiment des systèmes qui se nourrissent un envers l'autre. Fait que j'aurais pas tendance à dire que c'est des jeux simples tout le temps, mais c'est sûr qu'on associe quand même assez facilement l'élégance avec la simplicité parce que ben c'est naturel. T'sais, c'est comme tu regardes un jeu d'échecs, c'est élégant d'emblée, il y a très peu de règles, mais tu peux passer ta vie à plonger de plus en plus loin dans ce jeu, l'explorer à jamais. T'sais.
Pourtant, on pourrait dire des échecs. Il y en a qui disent que les échecs, c'est pas un jeu.
En fait, c'est vrai que ça peut être discutable, effectivement. Entre le go et les échecs, on s'entend que le go pourrait être beaucoup plus élégant que les échecs, tu sais.
Oui, mais c'est pas juste à cause de la simplicité, c'est à cause aussi des possibilités. Dans l'élégance, il y a aussi, je pense, une facette qui est assez importante de respecter, c'est qu'on ne doit pas avoir de situation où est-ce que on reste un peu dans une situation en queue de poisson. C'est le cas avec les échecs. Il peut y arriver une situation avec les échecs où est-ce qu'on a ce qu'on appelle un pat, où il n'y a rien qu'on peut faire. Ni l'adversaire qui est en train de gagner, ni celui qui est en train de perdre peut faire quelque chose, parce que la situation fait en sorte que l'autre va être en échec et il ne peut pas se mettre en échec. Il y a juste celui qui est en train de gagner qui peut le mettre en échec. Donc, ces situations-là ne devraient pas arriver dans un jeu qui est vraiment
élégant et systémique. C'est vrai, t'as raison.
Puis l'autre chose, puis je rajoute à ça aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Random Chess de Fischer, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé, Bobby Fischer étant comme un des plus grands joueurs de tous les temps, a constaté
ça, c'est
que...
discutable, avec... mais...
Mais en tout cas...
Un des plus emblématiques.
Exact. On va le dire comme ça. L'affaire, c'est que lui, ce qu'il a pris conscience, c'est que justement, il y avait tout le temps une espèce de façon d'aller chercher l'optimisation dans chacun des coups. Donc, automatiquement, ça devient juste un processus de répétition puis de connaissance, de mémorisation de ces coups-là.
C'est vrai.
Puis là, à ce moment-là, quand on est rendu à ce point-là, c'est comme s'il n'y a plus de... Je pense que l'élégance vient être remise en cause. Puis c'est ça, en fait, que lui, il propose, c'est... justement, de randomiser les pièces au début de la partie pour être capable, justement, de ramener, en fait, les échecs
à leur statut initial, quand il n'avait pas été abusé pendant 2500 ans par les meilleurs joueurs.
Oui, c'est ça.
Je passerais peut-être la parole à Steve, qui
Oui. Moi, j'ai une question simple, c'est qu'est-ce qui va contribuer à un jeu élégant? Tu sais, voir les règles qu'on dit sont simples. Il y a des fois qu'on va, je trouve, mettre l'interaction des joueurs qui va participer à la complexité du jeu, mais sans rendre le jeu plus lourd, justement, dans ses principes. Tu sais, l'iconographie, on pourrait dire, qui pourrait rendre le jeu plus fluide. Même chose aussi, s'il y a trop d'iconographie, ça va rendre le jeu encore moins élégant. C'est quoi les éléments que vous jugez qui fait partie d'un jeu élégant?
Ben, c'est un bon point que tu apportes, parce que c'est sûr qu'au-delà des règles, il y a toute la, on va dire, la présentation du jeu. T'sais. C'est sûr que... puis là, je vois André-Philippe qui vient d'arriver dans le chat, mais je pense à un jeu qui s'appelle Innovation. Okay, pour ceux qui connaissent ce jeu, Innovation.
Je viens de jouer hier en plus.
Jouer hier, mais nous, on joue avec toutes les extensions. Oh, toi aussi, j'espère. Okay. Ouais, c'est ça.
Fait que... rendu là.
OK, mais c'est un jeu qui est vraiment élégant, en fait. Mais pourtant, ça a l'air du jeu le plus chaotique et ça a l'air d'être n'importe quoi. Mais il y a une cohérence générale dans le jeu qui fait qu'il y a une élégance qui émerge de ça, mais chaque carte est sa propre règle, tu sais. Fait que oui, tu découvres le jeu, tu découvres les choses, mais il y a un système dans les icônes, il y a une réutilisation des icônes d'une extension à l'autre qui viennent toujours donner une profondeur de plus au jeu. Au lieu de rajouter des règles, ça donne une profondeur supplémentaire au jeu. Et c'est...
À contrepartie, ce que j'avais envie de rétorquer là-dessus, dit Macaire, qui a pratiquement qui n'est que des icônes, puis qu'on regarde la fameuse édition de Valley Games.
C'est belle, hein?
Hey, c'est terrible. Mon ami, j'ai jamais vécu un aussi gros turn-off que ça. Pourtant, le jeu est très... Il y a une belle élégance. C'est un jeu lourd, c'est un jeu dense, mais avec une belle profondeur. Mais ça vient vraiment, vraiment donner un... Tu sais, c'est vraiment un mur, en fait, à la compréhension, cette iconographie-là en particulier. Fait que ça me fait beaucoup penser, en fait, à ce que tu dis. C'est comme si... dans un jeu où il y a tellement de lectures dans Innovation versus Dimacker qui n'en a pas du tout, qu'il y a Innovation, bon ben, c'est fluide, en fait, quand tu commences à jouer, tu commences à comprendre, tu commences à saisir, puis là, tu saisis, en fait, les subtilités, le système. Dans Dimacker, ben, automatiquement, cette édition-là en particulier, tu es confronté, en fait, toujours à cette restriction-là à cause de l'iconographie de bouette, et je pense que ça mérite un gros pet, ça. Enfin.
Mais
ça faisait longtemps qu'on avait eu, puis ça faisait du bien.
Oui,
mais c'est une chose, par contre, je remarque aussi, quand tu parles d'innovation, la première prise en main, je le juge pas comme un jeu élégant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes, mais quand tu finis par comprendre un peu plus la symbiose qu'il y a entre les cartes, il y a une certaine délégance.
Oui, ben c'est un bon point que tu apportes là. Puis tu sais, on n'aura clairement pas le temps. Là, on rentre, on s'échauffe, on dirait on rentre dans le vif du geste. C'est terminé, malheureusement. L'épisode est terminé. On aura la chance d'en reparler, j'espère bien. Premièrement, réflexion, il y a une question qu'on n'a même pas abordée, c'est à quel point l'élégance est importante pour un jeu. Tu sais, est-ce que c'est pas la seule lentille d'analyse? Tu sais, il y a plein de jeux qui sont pas élégants, qui peuvent être quand même vraiment bons. Je pense quand même que la plupart des jeux ont probablement une touche d'élégance à un certain point quelque part. Quand vous jouez à la maison, quand vous jouez des jeux, essayez de mettre cette lentille pour reconnaître l'élégance dans un jeu. On a le temps peut-être pour une phrase pour chaque personne pour terminer. Je vais commencer par toi, Steve, vu que tu as été le dernier à parler.
Pour plugger des affaires ou juste à reparler du sujet,
tu parles de ça? Tu peux dire là, le temple du Meeple, suivez ça sur YouTube. Ouais,
non, c'est ça, c'est juste pour parler, là. C'est juste pour lancer Vincent là, parce qu'on prépare un top de 2023 avec plein d'autres YouTubers québécois que Vincent va participer s'il décide d'envoyer son segment vidéo. Il y a même Antoine qui était censé faire un top avec les jeux asiatiques, mais je pense que ça viendra jamais. Mais ça va s'en venir dans les prochaines semaines à la Société des Jeux.
Ok, parfait. Vincent, un petit mot sur l'élégance?
En fait, moi, j'aurais... j'aurais comme...
pose la question.
J'aurais envie de... Je pense qu'on devrait faire un part 2 à ça. Puis justement, d'aller un peu plus en profondeur, parce qu'il y a comme justement un pan qu'on parle de jeux de société avec l'optimisation de points, mais qu'en est-il, mettons, des wargames, des jeux de simulation, jusqu'à quel point que la simulation puis le désir de se rapprocher toujours d'un côté où est-ce qu'on va représenter la réalité le plus possible, est-ce qu'il y a une espèce de juste milieu à avoir entre la représentation la plus près possible de la réalité versus le fait que le jeu peut être élégant? Est-ce qu'une règle peut permettre une profondeur ou elle fait juste être une espèce de couche supplémentaire qui, au final, apporte très, très peu?
C'est une bonne question. Il y a des wargames qui sont sûrement très élégants et d'autres qui ne le sont vraiment pas. Pierre, 20 secondes.
S'il y en a qui sont curieux, vous irez sur BoardGameGeek. Monsieur Alan Moon, aventurier du rail, auteur de l'aventurier du rail lui-même, a créé une liste qu'il a appelée « La simplicité de l'élégance dans les jeux ». Il a listé 28 des jeux qu'il met en exemple absolu comme des archétypes d'élégance dans les jeux de société.
Ben...
Et son numéro un dans ça, c'est Love Letter.
Bon, c'est une bonne réflexion. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que cette discussion aura été enrichissante pour vous. Et on se retrouve à 9h la semaine prochaine. Ciao.
Oh. Bonjour.